à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du lundi 16 janvier 2018. À la une ce soir, en République centrafricaine, des affrontements opposent depuis plusieurs jours des groupes armés malgré la présence des casques bleus. Grande sociale au Bénin, l'éducation, la justice et la santé sont touchés. Des centaines de membres repentis de Boko Haram ont été libérés au Nigeria. Et Khartoum a été le théâtre d'une grande manifestation contre la hausse des prix. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Dans le nord-ouest de la République centrafricaine, Paoua est en proie à une grave crise humanitaire après plusieurs semaines de combats. Les déplacés sont plus nombreux que les habitants. Selon OCHA, Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU, ils sont plus de 60 000 à être arrivés en 15 jours dans la ville qui compte normalement 40 000 habitants. Il fuit les affrontements entre groupes armés rivaux qui se battent pour le contrôle des checkpoints. Nous reviendrons sur la situation à Paoua en seconde partie d'émission. Au Cameroun, la plateforme pour la Nouvelle République a été lancée hier. Composée de partis d'opposition et d'acteurs de la société civile, elle vise à soutenir la candidature de l'avocat Kéré Mouna à l'élection présidentielle prévue fin 2018. La plateforme rassemble notamment l'Union des populations du Cameroun, parti nationaliste, et le mouvement NAAN, une organisation créée pour le changement au Cameroun par M. Kéré Mouna, avocat connu pour son combat contre la corruption. Au Bénin, le collectif des organisations syndicales des travailleurs des ministères dit ne pas être concerné par le mouvement de débrayage déclenché par les centrales syndicales. Mouvement qui paralyse l'éducation, le port, la justice et même la santé. Sur place, notre correspondante Ginette Fleur-Adondé.
Le collectif des travailleurs des ministères dénonce une tentative d'exploitation des problèmes spécifiques des travailleurs à des fins politiques inavouées. Il refuse de suivre ce mouvement de grève déclenché pour soutenir ceux à qui les députés ont retiré le droit de grève à travers une loi votée le 28 décembre 2017. Il dénonce la violation flagrante par les centrales syndicales de la loi qui régit le droit de grève au Bénin.
Les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés, à caractère essentiel, dont la cessation totale du travail porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population, sont tenus d'assurer un service minimum obligatoire.
Malgré cet appel au boycott, la grève est généralement suivie dans les tribunaux, les hôpitaux publics et les écoles. Dans certaines localités du Bénin, les syndicalistes sont passés fermer les écoles qui ont ouvert leurs portes. Il faut que l'État comprenne une fois pour de bon que les centrales syndicales iront jusqu'au bout, a lancé lundi Noël Chadaré de la COSI Bénin. Pour l'heure, les regards restent désespérément tournés vers la Cour constitutionnelle qui tarde à rendre publique sa décision sur la loi qui retire le droit de grève aux travailleurs et contre laquelle plusieurs secteurs fonctionne à pas de tortue ou pas du tout. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
L'armée nigériane affirme avoir libéré 244 membres présumés de Boko Haram dans le nord-est du pays. Selon un porte-parole militaire, les suspects ont renié leur appartenance au groupe djihadiste. Le point avec Jacques Aristide.
Ce sont 56 femmes, 118 hommes adultes, 19 adolescents et 51 enfants qui ont été remises au gouvernement de l'État de Borno. Leur libération s'inscrit dans le cadre de la célébration à Maïdougouri de la journée du souvenir des forces armées. D'après le général Roger Nicolas, qui est à la tête de l'opération anti-Boko Haram, cette remise en liberté a été approuvée par le chef d'état-major des armées, le général Tukur Bouraté. Le général Nicolas indique dans un communiqué que ses membres repentis de Boko Haram ont été suivis de très près et leur repentance confirmée. Le gouverneur de l'État de Borno a félicité l'armée pour ses efforts visant à déradicaliser, dit-il, des insurgés de Boko Haram. Kashim Chetima indique s'être longuement entretenu avec certains des suspects qui lui ont fait part de leur hâte de réintégrer la société et de se conformer aux lois. La guerre contre Boko Haram a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés depuis le début de l'insurrection en 2009.
Khartoum a été le théâtre d'une grande manifestation contre la hausse des prix. La police a usé de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues au cœur de Khartoum. Tout près du palais présidentiel, ils ont scandé des slogans disant « non à la faim, non au prix élevé ». La police les a dispersés à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Un responsable du parti communiste, Sidig Youssef, et d'autres manifestants ont été interpellés. La semaine dernière, des étudiants ont organisé une manif contre la vie chère près de l'université de Khartoum avant d'être chassés par la police anti-émeute. Le prix du pain a doublé après la décision du gouvernement de confier les importations de céréales au secteur privé. En 2016, le Soudan a été le théâtre d'un mouvement de protestation après la décision des autorités de réduire les subventions sur le carburant. La mesure avait entraîné une forte hausse des prix, suscitant la colère de la population.
En Afrique du Sud, la municipalité du Cap informe ses habitants qu'ils pourraient être totalement privés d'eau à partir du 21 avril. La sécheresse sévit depuis des mois dans la deuxième agglomération d'Afrique du Sud. Le Cap, qui accueille chaque année des millions de touristes, a déjà mis en place de strictes mesures de rationnement de l'eau, aussi bien dans les hôtels que pour les particuliers, pour tenter de retarder l'échéance du jour zéro ou jour sans eau. Les plongeons dans les piscines municipales sont donc interdits et ceux qui consomment plus de 87 litres d'eau par jour sont menacés de poursuites judiciaires. Libye, le trafic aérien est toujours suspendu à l'aéroport de Mitiga, près de Tripoli, au lendemain de combats entre les forces de sécurité et un groupe armé qui ont fait au moins 20 morts. Les vols ont été détournés sur Misrata, à 200 km de la capitale. Hier, un groupe armé a lancé une attaque contre une installation militaire devenue l'unique plateforme aéroportuaire de Tripoli, depuis que des combats en 2014 ont sérieusement endommagé l'aéroport international. L'attaque d'In Amenas, c'était le 16 janvier 2013. Un commando djihadiste avait attaqué l'immense site gazier dans le Sahara algérien. Durant cette prise d'otage de 3 jours menée en représailles à l'intervention française au Mali, 40 employés ont péri ainsi que 29 assaillants. Attaque revendiquée par les signataires par le sang, fondée par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, ancien membre d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron était en visite à Calais où s'était créé un immense bidonville de plus de 8000 migrants démantelés fin 2016. En aucun cas, nous ne laisserons se reconstituer une jungle, a assuré le président français. Entre 350 et 500 migrants, selon l'État, sont aujourd'hui présents à Calais, essentiellement venus d'Éthiopie, d'Érythrée et d'Afghanistan. Le président Macron a critiqué les incohérences de la politique européenne en matière d'asile. Il a vivement mis en cause l'examen des demandes d'asile par le premier État d'entrée dans l'Union européenne. Au Yémen, plus de 5000 enfants ont été tués ou blessés dans les affrontements et plus d'un million et demi souffrent de malnutrition aiguë. L'UNICEF publie ces chiffres affirmant qu'une génération entière sera marquée par la violence, les déplacements, la maladie, la pauvreté et la malnutrition. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan promet d'en finir avec les nids de terroristes dans le nord de la Syrie, contrôlés par des groupes kurdes. Minbej et Afrin sont deux régions contrôlées par les unités de protection du peuple kurde, considérées par la Turquie comme l'extension du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, une organisation classée terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Ouverture aujourd'hui au Canada d'une rencontre entre les États-Unis et ses alliés sur la crise du nucléaire nord-coréen. La Chine et la Russie sont les grands absents. Raissa Girondin.
À l'initiative des États-Unis, une réunion sur la Corée du Nord s'est ouverte à Vancouver, au Canada. Les diplomates d'une vingtaine de pays cherchent à s'entendre sur de nouvelles sanctions contre Pyongyang. La Chine et la Russie n'ont pas fait le déplacement. Cette réunion n'a ni légitimité ni représentativité, a martelé Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. De son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, estime que les Américains et leurs alliés veulent imposer leur vue sans reconnaître la réalité d'un monde multipolaire. La réunion intervient en pleine détente ces derniers jours sur la péninsule. Pyongyang et Séoul se sont rencontrés pour la première fois en 2 ans et la Corée du Nord a accepté d'envoyer chez son voisin du Sud une délégation aux prochains Jeux olympiques d'hiver.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le nombre de touristes dans le monde a augmenté de 7% en 2017, avec plus d'un milliard de personnes. La France est restée la première destination, suivie de l'Espagne qui dépasse les États-Unis. En Amérique du Nord, le Mexique et le Canada ont profité du recul des États-Unis. La reprise du tourisme en Égypte, Turquie et Tunisie a permis à l'Afrique et au Moyen-Orient de progresser. L'Égypte veut construire une méga-cité industrielle spécialisée dans le textile et l'habillement. La ville va abriter plus de 560 usines pour 2 milliards de dollars à investir sur 7 ans. Les capitaux attendus en 2020 sont estimés à 230 millions de dollars.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Match du groupe D en cours au championnat d'Afrique des Nations au Maroc.
Et les étalons du Faso face à l'Angola depuis 16h30 temps universel. Après une heure de jeu à Agadir, pour le moment 0-0 entre les deux équipes. À 19h30 temps universel, les Lions indomptables du Cameroun affronteront le Congo. Les Diables Rouges espèrent faire mieux que lors du précédent CHAN où ils avaient été éliminés au premier tour. Écoutons Barthélémy Ngatsono, le sélectionneur congolais.
Peut-être pas rebondir, parce que nous savons que la dernière fois nous avons été débarqués dès le premier tour. Notre souhait serait de passer ce cap-là. Donc ça c'est le premier objectif. Et ensuite, je crois que c'est des jeux, nous n'avons peut-être pas un autre objectif que celui de jouer une compétition. Et une compétition, elle se joue selon certains principes. Il faut gagner, il faut chercher à aller le plus loin possible.
Voilà, c'était Barthélémy Ngatsono, le sélectionneur congolais. En face, le sélectionneur camerounais affirme que les Lions indomptables sont prêts. Pour ce match, on écoute Rigobert Song.
Je pense qu'on est prêt. Je reste convaincu que mon effectif, aujourd'hui, sont prêts à aller au bout et de faire mieux que ce qu'on pense d'eux. Je suis confiant avec eux. Et l'équipe congolaise, il faut savoir aussi que c'est une très bonne équipe. J'ai vu leur dernier match il y a quelques jours. Ça m'a donné quand même aussi certaines idées et de voir comment eux, ils se comportent. Donc, je sais, c'est à nous maintenant de mettre notre stratégie en place pour que nous puissions faire la différence. Et nous sommes préparés pour ça.
Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun.
Et hier, la Libye a débuté par une victoire.
La logique a été respectée à Tanger. La Libye a facilement dominé la Guinée équatoriale 3-0. Décevant, le Nigeria, l'un des poids lourds de ce championnat d'Afrique des Nations 2018, il a été tenu en échec par le Rwanda 0-0 pour son entrée dans la compétition. À noter, Morgane, que les Nigérians ont tiré 3 fois sur le poteau.
Demain, le Maroc qui pourrait déjà se qualifier pour les quarts de finale.
Oui, dans le groupe A, les Lions de l'Atlas, devant leur public du stade Mohamed V, affrontent le Sili National de Guinée. Les Marocains en pleine confiance avec leur premier succès 4-0 en ouverture contre la Mauritanie. Les Mourabitounes espéreront se relancer mercredi face au Soudan. Le point avec Amine Birouk au Maroc pour VOA Afrique.
Jamel Selami, le sélectionneur du Maroc, a certainement coché le nom de la Guinée sur la feuille de route qui doit mener les Lions de l'Atlas vers le prochain tour du CHAN 2018. 4 jours après avoir dominé la Mauritanie en ouverture, les Marocains ont l'obligation ce mercredi de l'emporter devant le Sili National pour s'assurer le sésame des quarts de finale. Pour cela, ils devront sortir le grand jeu face à un adversaire dos au mur. En effet, la Guinée s'est inclinée d'entrée devant le Soudan 1-2 et n'a plus droit à l'erreur. Les hommes de la paix Bangoura devront pour cela se montrer plus rigoureux en défense et plus efficaces en attaque. Et surtout, résister à des rivaux qui joueront devant leur public. Ils seront d'ailleurs près de 40 000 supporters au complexe Mohamed V de Casablanca. Un élément que Jamel Selami prendra certainement en compte dans sa feuille de route. Depuis Agadir au Maroc, Amine Birouk pour VOA Afrique.
Cyclisme tropical à Missa Bongo.
L'Australien Brenton Jones de l'équipe d'Elco Marseille a remporté la deuxième étape courue entre Ndende et Fougamou, 175 km. Au terme d'un sprint très disputé, Jones est le premier coureur australien à remporter une étape de la course gabonaise. L'Allemand Lucas Kasternsen, vainqueur surprise hier de la première étape, a terminé troisième mais conserve le maillot jaune. La troisième étape demain entre Fougamou et Lambaréné.
Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, donc la Centrafrique, la population de Paoua et ses environs vit toujours dans la psychose en raison des affrontements qui opposent depuis plusieurs jours différents groupes armés, et ce malgré la présence des forces onusiennes de la MINUSCA. Félix Epassi Zembrou a joint sur place un habitant qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité.
À Bukaranga, après l'exaction des forces de Sileka et les RG à Paoua, les Sileka sont maintenant en mouvement vers de Gaulle, vers Kouy, pour rejoindre les 3R. Ce qui fait qu'on ne connaît pas encore leur intention, mais ils sont toujours en déportation vers de Gaulle, précisément à Kouy, pour rejoindre les 3R. Que toute la nuit, la ville est un peu paniquée. Il y a le mouvement des populations qui fuient dans la brousse, qui dorment vraiment dans une situation vraiment critique. Tous les jours, dans la journée, la nuit, vraiment, la population sont en mouvement. Cela est dû à ce mouvement des Sileka qui se dirige en ce moment vers les 3R.
Ces groupes armés, est-ce qu'ils se battent entre eux en ce moment?
Ce sont les Sileka qui ont combattu la semaine passée avec les RJ du général Sahou. Donc, on ne se connaît pas trop ce qui s'est passé là-bas, mais pour le moment, ils se dirigent vers de Gaulle pour rejoindre les 3R.
Quel est le bilan? Y a-t-il eu des morts dans ces affrontements?
Exactement, on ne connaît pas encore le bilan, mais j'ai appris qu'il y a les incendies des maisons, il y a des tuyaux. Vraiment, il y a des cadavres partout au village qui sont à l'entour de Paoua.
Y a-t-il la présence de la MINUSCA dans la région?
Oui, à Paoua, il y a la présence de la MINUSCA qui est là. À Bukaranga aussi, il y a la présence de la MINUSCA. Mais à De Gaulle, ils ne sont pas là à De Gaulle. C'est le général Sidiki avec ses tours de Paoua qui sont naturellement à De Gaulle.
Et que font-ils ces militaires de la MINUSCA?
Ils sont toujours inactifs, surtout ce qui se passe à Paoua. Là, vraiment, les casques bleus sont inactifs sur le terrain. Il n'a pas pu protéger la population. Donc, c'est ce que je voudrais vous confirmer pour ce moment.
Y a-t-il un appel pour nos autorités?
Vraiment, si on compte sur les forces onusiennes, vraiment, le pays va tomber dans le chaos. Si c'est bien de réarmer les satans, comme ça, ils vont prendre la destinée du pays pour nous chercher ces malfrats. Parce qu'en ce moment que je vous parle, si vous voyez vraiment la situation de la population vers Paoua dans la brousse, tout ça, c'est lamentable. Parce que vraiment inhumain. Si on pourrait réarmer les satans, il peut vraiment désarmer ces gens-là et tuer les pays de la terre en fait.
Un habitant de Bokaranga, dans le nord-ouest du Centrafrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Tchad, en application de la loi des finances 2018, des augmentations de prix ont été constatées par les populations. Le prix de l'essence, du gaz butane, du gazoil et autres ont connu une hausse avec des répercussions sur le coût de la vie déjà jugé cher. Cette hausse survient après la renonciation du gouvernement de baisser les salaires et suscite indignation et consternation dans le pays. Yacouba Ouedraogo a joint Michel Barka, président de l'Union des syndicats du Tchad.
Ce n'est pas la première fois, le gouvernement l'année dernière, pour des raisons de crise financière, dit-il, avait pris des mesures. Nous sommes toutes impopulaires, mais finalement, qui n'ont donné aucun résultat. Cette année, il nous est arrivé encore une fois une nouvelle surprise, des augmentations tous azimuts, des prix des denrées, des prix du carburant, augmentation des impôts, des taxes d'habitation.
Est-ce que vous pouvez nous donner des données chiffrées de ces augmentations-là? Et c'est quel secteur ça concerne?
L'impôt concerne des secteurs privés comme publics, se consacrent dans la loi de finances, ça n'épargne personne et tous les secteurs sont concernés. La taxe, l'augmentation du prix du carburant, par exemple, c'est toute la population. Chez nous, le moulin est dans tous les quartiers avec l'augmentation du prix du carburant, avec l'augmentation des taxes sur le moulin lui-même. Alors, imaginez ce que ça fait comme répercussion du coût au niveau consommateur. La loi de finances vient juste d'être rendue publique. Nous sommes en train justement de faire un travail pour déterminer exactement ce que ça représente en pourcentage, la baisse de notre pouvoir d'achat.
Comment réagissent les populations face à ces nouvelles augmentations, puisque qui dit augmentation d'impôts parle bien sûr d'augmentation des denrées alimentaires et autres.
Pour cette fois-ci, unanimement, on se rend compte que les gens ont été touchés. La population est en désaccord total avec toutes les mesures qui sont prises et ça se lit dans tous les visages, dans les rues, dans les journaux et partout. Les gens expriment leur ras-le-bol du comportement du gouvernement.
Cette hausse des impôts, vous l'avez dit, est prévue dans la nouvelle loi de finances 2018 et donc une loi normalement qui a été adoptée en décembre. Cela ne devait pas surprendre.
C'est même une histoire assez bizarre parce que par rapport aux abattements, par exemple, vous ne trouverez pas cela indiqué clairement dans la loi de finances. Mais pour les impôts, au moins, c'est clairement indiqué.
Pourquoi n'avoir pas combattu l'adoption de cette loi de finances-là et d'attendre qu'elle soit appliquée pour réagir?
Ça, c'est une très bonne question. La loi de finances ne se discute pas comme ailleurs où il y a des réunions, il y a des discussions budgétaires qui font participer les gens de manière un peu populaire avec des réactions pour arranger tout avant d'être publié. Chez nous, c'est peut-être en quelques heures au niveau de l'Assemblée que la loi de finances est adoptée. Et très souvent, d'ailleurs, à l'insu de tout le monde, c'est déplorable, mais c'est comme ça que ça se passe.
L'opposition se trouve à l'Assemblée et donc, à défaut de pouvoir empêcher la loi de finances de passer, elle pourrait au moins publier son contenu avant adoption.
Les députés ne la discutent pas en deux jours. Cette année, par exemple, c'est en quatre heures que la loi de finances a été adoptée. Vous ne pouvez pas avoir le temps de regarder et réagir.
Que comptez-vous faire maintenant?
Nous n'avons pas accepté qu'on nous applique des augmentations des impôts qui vont encore considérablement réduire notre revenu. Nous préparons à dire non au gouvernement.
Michel Barca a joint N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Cameroun, l'Institut ophtalmologique d'Obac soigne depuis mars 2017 les maladies de la vue de nombreux patients du pays, mais aussi de la sous-région. Appelé l'hôpital des yeux d'Obac, l'Institut est situé à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale politique. Correspondance à Yaoundé d'Emmanuel Juntap qui s'est rendu sur place.
Il y a 11 ans, Jérôme Abada perdait totalement la vue. Âgé aujourd'hui de 84 ans, Jérôme savoure ce qu'il appelle lui-même le retour à la vie après une opération réussie de son œil gauche. Avec quelques larmes d'émotion, dans une salle des patients internés de l'hôpital, Jérôme Abada raconte à VOA Afrique.
Le jeune docteur même qui m'avait opéré les yeux, je ne peux pas le reconnaître parce que je ne voyais pas. Deux jours après, on a enlevé le pansement. Un prodige, je vois encore la lumière du jour. J'étais déjà contre Dieu, que pourquoi à mon âge, il faut abréger ma souffrance, que je meure. Mais Dieu a envoyé ma famille, que voici, hôpital des yeux.
L'hôpital des yeux a aussi ouvert ses portes à Anastasie, une étudiante atteinte de myopie qui répond ce jour à un rendez-vous avec l'ophtalmologiste.
Je ne vois pas bien de loin, mais je vois bien de près. Et c'est de bouche à oreille. Des aînés, des amis qui sont arrivés ici, ils m'ont demandé de passer pour faire un bilan de mes yeux.
Depuis le 29 mars 2017, date des premiers soins dans cet hôpital, les malades affluent de tout horizon. L'hôpital doit surtout sa réputation grâce aux opérations réussies de la cataracte, l'une des principales causes de la cécité au Cameroun. Dr Henry Koumbé, médecin-chef de l'hôpital des yeux d'Obac.
Nous avons pu effectuer 591 opérations de la cataracte. Cette année-ci, on devrait pouvoir aller au-delà de 2500. Nous voulons aller davantage dans des endroits reculés, pouvoir servir les personnes défavorisées pour qu'elles puissent avoir accès à la chirurgie de la cataracte.
L'hôpital bénéficie aussi du soutien de l'agence publique américaine Overseas Private Investment Corporation. David Bohijen, vice-président de la dite agence, en visite dans les locaux.
This Eye Institute is not only a symbol of light, but a symbol of cooperation between the government of the United States and the government of Cameroon. And it also shows amazing cooperation between private sector investors, non-government authorities, all who've come together to put together one of the most innovative development impact loans in the world.
L'hôpital des yeux d'Obac offre plusieurs services à des coûts sociaux, parmi lesquels l'ophtalmologie générale, la correction de la vue au laser, les soins spécifiques pour les maladies de la vue affectant les enfants ou encore les conseils en lunetterie et optique. Emmanuel Jelutap, de retour de BAC, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer À votre avis ce mardi à 18h temps universel sur VOA Afrique. Nous parlerons football, notamment à la lumière de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2018, avec une question pour vous, chères auditrices et auditeurs, comment mettre en valeur les joueurs locaux ? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Selon le rapport annuel de Freedom House, 2017 est la 12e année de recul mondial de la liberté. Pour les experts de Freedom House, la Chine, la Russie et la Corée du Nord menacent la stabilité mondiale. Ils font toutefois état de progrès de développement dans d'autres régions comme l'Amérique latine et l'Afrique. Le point avec Raïssa Girondin.
La démocratie en déclin est prise d'assaut dans presque chaque coin du monde. Voilà ce que révèle le dernier rapport de Freedom House sur les droits civiques et d'autres libertés démocratiques dans plusieurs pays. Arch Puddington est un conseiller Freedom House.
Pendant la 12e année consécutive, la liberté est en baisse à travers le monde. Et cela veut dire qu'il y a plus de pays en 2017 qui ont montré une baisse de la liberté au lieu d'une amélioration.
Cela inclut les États-Unis où une enquête est en cours dans une affaire d'ingérence présumée de la Russie dans l'élection de 2016 qui affaiblit le statut du pays cité comme modèle pour la démocratie. Les campagnes de désinformation de la Russie au cours des élections européennes ont été aussi citées comme un facteur diminuant les normes démocratiques dans le monde entier. Dans des pays comme la Chine, les experts voient un modèle de répression et la censure qui s'intensifie sous le président Xi Jinping. L'exode massif de musulmans Rohingyas de l'état de Rakhine en Birmanie vers le Bangladesh met en lumière une crise humanitaire qui empire, que les États-Unis dénomment un nettoyage ethnique.
Le Zimbabwe a chuté en 2017, mais ceci en raison de la mise à l'écart par les moyens non démocratiques du président Mugabe. Il a été évincé d'une manière non démocratique. Donc, nous espérons vraiment que les quelques promesses qui ont été faites de réformes, de libéralisation et des tenues d'élections sérieuses l'année prochaine seront remplies.
Il y a quelques progrès à travers l'Amérique du Sud et centrale, y compris le Mexique, où les électeurs éliront un nouveau président cette année.
Un des candidats à l'élection a une formation populiste. S'il devait gagner, il pourrait y avoir quelques changements intéressants dans les politiques mexicaines.
Malgré des guerres en cours en Irak et en Afghanistan, les experts de Freedom House disent qu'ils observeront ces deux pays cette année pour voir s'ils font des progrès vers un gouvernement civil. Et dans l'ombre de pays voisins, la Chine et la Corée du Sud, des experts voient des signes de développement politique soutenus pour la Corée du Sud et Taïwan.
Le fait que vous avez eu des gouvernements démocratiquement élus qui sont prêts à faire passer des réformes politiques, c'est quelque chose de vraiment positif aussi.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition, à la mise en onde Georges Léonard Sagno, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous êtes
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.